Dans ce journal, on vous parle bien sûr de surf avec les débuts de la Tahiti Pro. C'est en ce moment où on s'intéressera aussi au transport inter-île et aux incendies qui touchent Hawaï. Et puis un invité en fin de journal, Johan Play, directeur des franchises du groupe Auchan. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
La Shiseido Tahiti Pro a débuté ce matin à Te Aupo.
Oui, avec des destins contrastés pour nos surfeurs polynésiens. Allez, on commence par les dames. Elles étaient les premières à se jeter à l'eau ce matin. Et dans des conditions assez timides, Vahine Fierro n'a pas tremblé pour sa première manche puisqu'elle s'est directement qualifiée pour les quarts de finale en signant le meilleur total et la meilleure vague des 12 femmes en lice sur la compétition. En revanche, à Ellen Vast, qui a été invitée à la dernière minute pour pallier un forfait sur blessure, elle n'a pas réussi à se qualifier. Troisième de sa manche, elle a été reversée au tour de repêchage. Il devrait avoir lieu cet après-midi si les conditions le permettent. Sur un format en 1 contre 1 et pour Ellen Vast, ce sera face à une concurrente de choix, la numéro 1 mondiale, Carissa Moore.
Et puis dans la famille Vast, il y a aussi le grand frère, Kaoli.
Oui, finaliste de la Tahiti Pro l'an dernier, le surfeur de Veirao n'a pas réussi à se qualifier directement pour le troisième tour. Il a terminé troisième de sa manche comme sa sœur, en ne surfant que 3 vagues. Il ira donc lui aussi en repêchage. Des repêchages où il pourrait retrouver Kelly Slater, la légende du surf qui a terminé deuxième de sa série. Ça s'est en revanche bien mieux passé pour Miimana Bray. On le rappelle, il participe à la compétition après avoir récupéré la place du numéro 1 de mondial, Ethan Ewing, qui s'est blessé le week-end dernier. Et le Tahitien a fait honneur à son invitation ce matin puisqu'il a remporté sa manche. Lui aussi est donc qualifié directement pour le troisième tour. Un cinquième polynésien est en lice, c'est le vainqueur des trials, Matai Drolet. Il est actuellement dans l'eau face à l'Australien Liam O'Brien et surtout contre le numéro 1 mondial, le Brésilien Felipe Toledo. Voilà pour cette première matinée de compétition. On le rappelle, cette Tahiti Pro peut durer jusqu'à 10 jours selon les conditions.
On poursuit en vous parlant du transport inter-île.
Et en particulier du transport de fret qui, vous le savez, est assuré par les goélettes. Taporo, Maristela et Vaikinui, des cargos vitaux pour les îles mais qui vieillissent dangereusement. Sur 14 cargos inter-archipel, pas moins de 9 ont plus de 40 ans et certains comme le Taporo 6 ou le Marevanui risquent tout bonnement de perdre leur licence d'exploitation à la fin de l'année. Une conséquence de la réglementation mise en place par le pays entre 2015 et 2018 et qui exige des armateurs de remplacer les navires de plus de 30 ans. Une contrainte nécessaire pour le directeur adjoint de la DEPAM, Charles Tabutou-Arey.
C'est une nécessité pour les armateurs, c'est une nécessité pour le pays et c'est surtout une nécessité pour les habitants des îles. Il faut que ces navires-là soient renouvelés et c'est dans cet esprit-là que cette réglementation a été créée. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, elle crée un cadre qui est contraignant, oui, mais c'est à ce prix-là qu'on a fait avancer les choses, quoi.
Et effectivement, les choses, elles avancent, puisqu'une demi-douzaine de goélettes sont en attente. Le groupe Martin, qui a déjà fait venir le Hawaii fin mars, fait construire actuellement un Hawaii Kinui 2. Il prévoit un Ukoao 2 et peut-être un Marevanui 2 pour 2026 et 2027. George Mohari, le fondateur de Ocean Products Tahiti, attend un Vaitere 2 d'occasion. Il fait construire dans le même temps un Vaitere 1 neuf de 90 mètres. Ce sera un cargo mixte comme la Ranoa en construction et qui doit doubler la Ranui sur les Australes fin 2025. Beaucoup de projets donc qui seront aidés pour les navires neufs, en tout cas par la défisque du pays et de l'État.
Il faut remercier les opérateurs qui font ces efforts-là. Ça n'est pas évident pour eux puisque lorsque l'on regarde certains pays qui sont à côté, ils n'ont pas les mêmes réglementations que nous. Si vous allez au Fidji, au Vanuatu, ils ont des coûts qui sont beaucoup moins élevés que nous. Et donc les aides du pays au niveau de l'investissement, ça vient un peu compenser ça. Et les aides à l'exploitation au niveau du carburant détaxé, ça vient aussi aider à l'exploitation.
Aider ceux qui investissent et maintenir la pression sur ceux qui ne le font pas, voilà la stratégie de la direction polynésienne des affaires maritimes où on sait combien les vieilles goélettes sont difficiles à gérer. Panne, incendie ou avarie, période de maintenance de plus en plus longue, à chaque fois les autorités se lancent dans un exercice de haute couture et de négociation pour boucher les trous sur les lignes. Charles Tapoutaurai regrette que certains investissements n'aient pas été lancés avant, car le Covid a fait bondir les prix dans les chantiers navals.
Le prix de l'acier s'est envolé, donc des navires beaucoup plus chers à construire. Les chantiers de construction de par le monde, ils ont été pris d'assaut notamment par les compagnies de croisière. Il y a eu la crise énergétique avec l'explosion du prix des hydrocarbures, de l'énergie et les conflits comme l'Ukraine, comme les taux d'intérêt qui ont remonté, donc des prêts qui coûtent beaucoup plus cher. Tout ça additionné, ça a explosé le prix des navires et qui a été multiplié par 2 dans certains cas, quoi.
2 à 3 milliards de francs pour une goélette neuve, voilà le prix. Pris en charge environ 50% par la défiscalisation du pays et de l'État. Certains armateurs demandent plus de temps, moins de contraintes réglementaires ou encore des défisques sur les bateaux d'occasion. Mais jusqu'à présent, les autorités ne veulent pas lâcher et ça n'est pas qu'une question de sécurité. Pour le pays, des bateaux plus performants, c'est aussi plus de développement économique dans les îles.
Et puis on vous parle d'un recensement.
Et même d'un recensement général, celui de l'agriculture. Le dernier, c'était en 2012 et les autorités préparent depuis de longs mois une nouvelle enquête. 60 ans enquêteurs vont aller à la rencontre de quelques 7500 exploitants et pas seulement à Tahiti et Moorea. Toutes les îles sont concernées. L'Institut de la Statistique a même affrété un voilier pour aller interroger les copraculteurs des atolls isolés. Une grande étude qui doit être lancée le 16 août pour durer jusqu'au 8 décembre. Les résultats serviront à actualiser le registre de l'agriculture, à revoir les politiques d'aide, de formation, d'infrastructure ou encore de préciser les ambitions sur l'agroécologie et l'autosuffisance alimentaire. On écoute le directeur de la DAG, Philippe Courreau.
C'est effectivement une photographie à jour, on va dire, de la situation. Ça nous permet donc de voir un peu l'évolution et d'ajuster surtout nos prévisions et de pouvoir ajuster les différentes politiques publiques, regarder les besoins en formation par exemple, le niveau d'emploi de manière très précise. C'est devenu un enjeu important, l'emploi dans le secteur agricole. Donc ce recensement sert à ça.
Et la direction de l'agriculture prépare ce recensement depuis 2 ans. Elle a fait appel cette année à l'ISPF pour gérer l'opérationnel. L'Institut, qui gère tous les 4 ans un recensement de la population, émène différentes enquêtes de terrain à l'année, à l'habitude de ce genre de mission. Mais comme l'explique sa directrice Nadine Jourdan, cette opération fait tout de même partie des études d'ampleur.
C'est 7500 questionnaires, ce sont 3 mois de collecte pour les enquêteurs sur le terrain. Nous préparons depuis plus d'un an maintenant. C'est aussi un budget de 250 millions. Donc c'est une opération extrêmement importante. Nous avons développé un outil informatique spécifique. C'est la première fois que nous saisissons une enquête de façon dématérialisée de cette ampleur-là. C'est le premier recensement sur tablette.
C'est une manière de gagner en efficacité dans l'analyse et ainsi de fiabiliser les résultats. Vous avez entendu Nadine Jourdan, elle était au micro de Charlie René.
Direction Hawaï.
Oui, plus précisément l'île de Maui, qui est depuis lundi la proie d'un incendie sans précédent. La station balnéaire de Lahaina a été complètement ravagée par les flammes et le bilan humain s'alourdit. Il est passé d'une trentaine à une cinquantaine en 24 heures. La ville historique et ses 12 000 habitants sont depuis privés d'électricité et d'internet. Le réseau téléphonique est très mauvais, les contacts avec l'extérieur sont difficiles et là-bas la pression retombe tout doucement, même si les feux ne sont pas totalement maîtrisés. Parmi les habitants, de nombreux enfants du Fenua, comme Tekao, qui vit sur l'île depuis 10 ans. Elle témoigne depuis Lahaina, écoutez.
L'évacuation, ça s'est passé carrément vite, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu prendre leurs affaires et sortir, quoi. En fait, ça ne nous a pas touché de notre côté, mais les gens ont évacué de notre côté et il y a beaucoup de sans-abri et de gens qui vivent dans le parc, dans leur voiture. Tout ce que les gens avaient dans leur frigo, ben, ils sortaient tous et se partageaient, quoi. Bon, c'était un peu dur pendant les 3 premiers jours parce que personne ne pouvait sortir de Lahaina ou revenir dans Lahaina.
TK au micro de Vaitiere Pereire depuis Hawaï donc, où la garde nationale a été activée et où le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de tous les moyens fédéraux disponibles pour lutter contre ces feux.
Et on termine par un mot de culture.
Avec l'ouverture des inscriptions de la 17e édition du Urrata Perú, ouverte jusqu'au 1er octobre, entre 20 et 30 formations sont attendues. Tous les groupes, écoles et associations qui souhaitent concourir peuvent désormais s'inscrire sur le site de l'événement ou directement auprès de la Maison de la Culture. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. Le journal n'est pas terminé puisque nous recevons aujourd'hui un invité pour l'interviewer. Charlie René est aussi sur notre plateau. Bonjour Charlie.
Bonjour Valdemar, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de grande distribution et d'un petit oiseau rouge, celui de l'enseigne Auchan qui vient de faire son entrée dans le secteur polynésien de la grande distribution. Donc 2 magasins franchisés depuis le 1er juillet. Il s'agit, vous le savez, des supermarchés Tamanu de Punaouia et l'ancien Cécile de Taunoa. Un 3e Auchan est sur les rails. Ce devrait être début 2025 sur les quais de Vaiare à Moorea, des supermarchés appartenant à Aline Taï qui a donc noué un partenariat avec ce groupe Auchan. Et justement, un de ses responsables nationaux est en visite au Fenua. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Joanne Play.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors Joanne Play, vous êtes directeur opérationnel hyper franchisé grand partenariat et Outre-mer. Le titre est un peu long, mais vous suivez en tout cas le réseau franchisé en Outre-mer et donc ici dans le Pacifique. Avant de parler de cette arrivée en Polynésie, j'aimerais vous faire dire un mot sur le groupe lui-même Auchan. Finalement, tous les Polynésiens ne connaissent pas forcément, mais c'est une enseigne qui pèse au niveau national, Joanne Play.
Oui, absolument. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1961, qui s'est d'abord développée dans son fief qui est la métropole lilloise, petit à petit, qui s'est développé sur le reste de la France, puis qui est parti à l'international. Aujourd'hui, on est présent au Portugal, on est présent en Espagne, on est présent en Ukraine, on est présent dans pas mal de pays. Et puis, on développe aussi finalement la franchise sur les Outre-mer. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, on est présent en Guadeloupe. On a ouvert deux magasins cette année. On a un partenariat historique en Martinique. On est aussi présent sur l'île de la Réunion. On est présent en Calédonie depuis quelques années. Et là, on a le grand plaisir d'arriver sur cette très belle île de Tahiti.
Et on va en reparler de cette installation juste avant. Peut-être que nos auditeurs qui sont passés dans l'Hexagone ont déjà fait des courses dans des Auchans, peut-être passés aussi dans l'Outre-mer. Ce qui marque les esprits généralement, ce sont les grands hypermarchés Auchan. Ça va jusqu'à 22 000 m². Ici, à Tahiti, vos nouveaux franchisés développent davantage du supermarché de proximité à taille humaine, comme on dit. Est-ce qu'il y en a déjà beaucoup dans votre réseau au niveau national et international?
Oui, effectivement, on retient Auchan pour ces très grands magasins en moyenne de 10 000 m² présents dans les grandes agglomérations françaises. Pour autant, on développe tous les formats. C'est-à-dire qu'Auchan, c'est du supermarché. Auchan, c'est de l'ultra-proximité présent dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon. Auchan, c'est du drive. Du drive, on vient chercher ses courses qu'on a commandées sur Internet et qu'on vient retirer avec sa voiture. Auchan, c'est du drive piéton. C'est-à-dire, c'est du drive de centre-ville. On passe sa commande sur son téléphone, sur Internet, et on vient chercher en bas de chez soi. Auchan, c'est du lockers. Auchan, c'est de la livraison à domicile. Donc, vous voyez, on exploite tous les formats, et le format supermarché ultra proximité est quand même extrêmement représenté par l'enseigne sur le territoire de à Paris et sur le reste de la France.
Et vous l'avez dit, Auchan est déjà présent en Outre-mer, aux Antilles, à La Réunion, notamment en Calédonie, vous l'avez dit aussi. La Polynésie, est-ce que c'est en projet depuis longtemps? Est-ce que vous avez travaillé beaucoup pour trouver ce partenaire au Fénouin?
En fait, déjà, ce qui est important de retenir, c'est Auchan, c'est une entreprise familiale et qui s'est construite sur un ADN de commerçant-entrepreneur. Et en fait, si on n'est pas arrivé avant à Tahiti, c'est qu'on n'avait pas trouvé le bon partenaire. Et donc, on avait besoin de trouver un partenaire qui nous ressemble, un partenaire qui avait le même ADN que nous, commerçant, entrepreneur. Donc, on a eu la chance de rencontrer Albert Aline.